Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui, pour la Bulle Nomade de décembre 2022, et la dernière de cette année au moment que je l'enregistre, j'ai envie de revenir sur un sujet que nous avons abordé de nombreuses fois, ici en podcast, à l'écrit sur le blog de floritaylor.com, et en vidéo sur la chaîne YouTube Florie Taylor, à savoir le minimalisme, ou comment simplifier notre rapport aux outils numériques, à la consommation de contenu en ligne, et à ces fameux réseaux commerciaux qui courent après notre attention et notre énergie. Donc, je suis très contente de vous parler aujourd'hui, depuis que le podcast est devenu mensuel. Je trouve que c'est un rendez-vous qui est devenu encore plus particulier pour moi, de me poser, de vous parler. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, je suis à Varsovie, mi-décembre. Je me suis rendue au studio pour lequel je travaille, qui s'appelle CD Projekt Red, pour la soirée de Noël, voir les collègues, être ensemble aussi pour la sortie d'un jeu, là, d'une version next-gen d'un jeu qui sort cette semaine. Donc je suis dans ma chambre d'hôtel. Je suis trop contente de vous parler, ça me rappelle des souvenirs aussi, parce que parmi les toutes premières Bulles Nomades, j'en avais tourné pas mal à Varsovie, puisque je venais juste de commencer en tant que chargée de com pour cette boîte, au moment où j'ai commencé les Bulles Nomades. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir d'en faire un moment particulier, pas simplement une tâche à cocher dans une liste, de devoir tourner le podcast absolument comme une obligation, comme un travail, comme quelque chose de pénible à faire, mais vraiment comme un rendez-vous où je m'installe confortablement et je vous parle. Et même si c'est asynchrone, puisque vous allez écouter ce podcast dans mon futur par rapport au moment où je suis en train de l'enregistrer, bah ça me donne l'impression de créer un lien avec vous et de pouvoir le faire tranquillement, sans pression, ce qui ne serait pas forcément le cas si je me mettais la pression pour faire des podcasts toutes les deux semaines, voire toutes les semaines. Là, ça devient quelque chose de privilégié, quelque part. Et ça, c'est un exemple, justement, de ce que ça apporte de positif, de réduire la quantité et de profiter de la qualité d'un contenu. Donc là, moi, en l'enregistrant, et puis je l'espère, vous, en l'écoutant, j'espère que c'est aussi un moment particulier pour vous quand la Bulle Nomade mensuelle sort. Donc pour en revenir au sujet plus global du minimalisme numérique, j'ai décidé d'aborder ce sujet pour clore l'année pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai remis à plat mon rapport aux outils numériques, encore une fois, à la fois en tant qu'utilisatrice et créatrice cette année, suite à un épuisement mental et émotionnel que j'ai vécu l'été dernier. Il n'y a rien de mieux que s'épuiser et plus avoir l'énergie de rien pour simplifier grandement l'organisation, les choses qu'on met dans l'agenda, les choses qu'on met dans la charge mentale, etc. Même si c'est pas forcément une solution que je vous recommande. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet, c'est que dans le cadre de mon organisation savoureuse, j'ai remarqué que la relation aux outils numériques était un point très important pour aborder l'organisation, les tâches et le temps passé en ligne, donc sur Internet, avec sérénité. Du coup, je me suis dit que ce serait un bon moment pour faire un petit point simplicité numérique, pour vous partager l'évolution de mes réflexions ces derniers mois à ce sujet, et mettre un petit peu de simplicité dans notre approche numérique pour 2023, si vous écoutez ce podcast au moment de sa publication, ou à partir de maintenant, si vous écoutez ce podcast plus tard. Le premier point que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, et que j'ai fini de simplifier en 2022, ce sont les réseaux commerciaux, à savoir les services comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Donc nous avons déjà abordé la manière dont ces réseaux sont conçus pour absorber notre attention, créer des pics de dopamine et plus ou moins indirectement nous faire consommer. Et ça, je l'ai constaté avec stupeur cette année quand j'ai décidé de prendre du recul avec Instagram, qui était le dernier réseau commercial sur lequel j'étais encore très présente. Au mois de mai 2022, épuisée. J'ai décidé en tant qu'artiste que j'en avais marre de consacrer du temps à poster 3 photos par semaine sur mon compte Instagram et des stories et ces fichus réels qu'Instagram nous impose depuis un an ou deux. Tout ça pour avoir en plus très peu de résultats parce que si c'est pas de la vidéo, ça fonctionne pas en ce moment. Je me suis rendu compte que maintenir mon compte Instagram en tant qu'artiste qui crée du contenu sur Instagram me prenait un temps et une énergie folle. Et que j'étais tout le temps en train de me demander si je devais prendre une photo ou tourner une vidéo verticale pour partager sur Instagram au lieu de profiter du moment. Donc ça, c'est un premier impact négatif, de devoir être tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais peut-être poster sur le moment plutôt que d'être à 100% dans le moment. Et ensuite, je me suis rendu compte que créer le calendrier éditorial donc d'Instagram pour planifier ce que je vais poster ce mois-ci, etc., éditer les photos, planifier les posts, me prenait une charge mentale monstrueuse. Tout ça en plus en tant qu'artiste pour ne pas vraiment voir de différence ni sur mon nombre d'abonnés. En fait, j'ai découvert que l'algorithme d'Instagram permet la découverte organique seulement si on utilise l'outil de manière très intense. Donc plusieurs stories par jour, 3 réels par semaine, au moins un post photo par semaine. Enfin, c'est du délire. Hein. À moins d'être collé au téléphone toute la journée, je vois pas comment c'est possible pour des artistes, des petites boîtes, des indépendants de passer autant de temps sur un réseau, franchement. Et j'ai pas tellement vu de différence non plus sur l'interaction avec les gens qui sont déjà abonnés, parce qu'on peut se dire qu'on crée aussi du contenu pour les gens qui nous suivent déjà, pas forcément que pour atteindre des nouvelles personnes. Et même là-dessus, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tellement plus de likes et de commentaires maintenant qu'il y avait il y a 2-3 ans, quand j'avais 3 fois moins d'abonnés. Il n'y a pas vraiment eu d'impact sur les ventes de café aux étoiles si je communique dessus sur Instagram, même si c'est pas le but premier du réseau. J'ai pas l'impression que les commentaires ou les discussions étaient particulièrement profondes. Je trouve qu'on a des discussions beaucoup plus intéressantes sur le canal Discord de Café aux Étoiles que j'ai créé depuis, par exemple. Donc si ça n'apporte ni visibilité, ni des ventes, ni du plaisir à créer les photos et les vidéos parce que je le vois comme une contrainte, ni une qualité du lien avec vous, je vois pas trop l'intérêt de dépenser autant de temps et d'énergie mentale sur Instagram. En d'autres termes, pour les indépendants, je ne trouve pas que les réseaux commerciaux classiques, hein, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, n'améliorent vraiment la visibilité à long terme. En tout cas, par rapport à l'énergie que ça prend de les maintenir. Ils permettent pas d'être découverts à moins de payer de la pub. Ça, sur Facebook et Instagram, c'est particulièrement vrai. Et même là, j'ai lu des expériences de marques indépendantes qui ont voulu payer des campagnes de pub sur Instagram et qui disaient qu'avec le prix que coûtent les campagnes versus le nombre de nouvelles ventes que ça rapportait, c'était pas vraiment intéressant financièrement. Donc d'un point de vue stratégie, on va dire commercial, je suis pas sûre que ce serait très intéressant de maintenir un Instagram. Et en dépendant des algorithmes, on n'a même pas de garantie que les gens qui suivent déjà voient nos publications. Ça, moi, c'est le truc qui me rend le plus dingue. Hein. Ça, c'est ce que j'ai constaté en baissant mon activité sur Instagram. L'algorithme m'a puni en cachant mes publications aux gens qui sont déjà abonnés et donc sont théoriquement intéressés par ce que je publie. Donc on parle de réseaux. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça des réseaux commerciaux plutôt que des réseaux sociaux. Vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, si vous n'êtes pas concerné par le côté business indépendant et tenir un Instagram pour votre business, si vous êtes simplement consommateur et consommatrice, vous vous abonnez à des gens. Moi, je le vois de mon côté. Je m'abonne à des gens pour être au courant de ce qu'ils publient et l'algorithme décide de ne pas me le montrer. Et plutôt décide de me montrer des pubs, des contenus sponsorisés, des suggestions de gens auxquels je ne me suis jamais abonnée. Enfin, en tant qu'utilisatrice, je ne vois pas l'intérêt, ça me fait perdre mon temps et ça ne me permet pas d'avoir accès aux informations que je cherche. Ça, c'est une première chose. Mais l'effet secondaire, dont j'avais conscience intellectuellement, mais que je n'avais pas vraiment constaté dans le concret, ou en tout cas dont je n'avais pas vraiment pris conscience dans le concret, c'est l'impact d'Instagram sur moi en tant qu'utilisatrice, donc pour explorer davantage cette partie-là de l'équation. En décidant de prendre du recul en tant qu'artiste, j'ai très largement réduit mon temps passé sur l'app en tant qu'utilisatrice. J'ai arrêté d'y aller tous les jours. J'ai perdu l'habitude de cliquer dessus automatiquement quand je débloque mon téléphone. Ça, c'est vraiment devenu un geste automatique. J'allume le téléphone, je vais sur Instagram, je m'en étais même pas rendu compte à quel point c'était devenu automatique. Par exemple, je vais allumer le téléphone parce que j'avais quelque chose de précis que je voulais faire dessus. Par exemple, regarder la météo avant de sortir, ou regarder un email qu'on m'a envoyé, ou quelque chose comme ça. Et je me retrouvais à être en train de scroller Instagram sans même m'être rendu compte que j'avais cliqué sur Instagram. C'était vraiment devenu un automatisme. Donc ça, c'est une habitude que j'ai perdue. Et franchement, aujourd'hui, sur Instagram, je m'y connecte peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et encore, moins je me connecte, moins j'ai envie de m'y connecter, en fait. Parce que je trouve ça, quand on a perdu l'habitude, je trouve que ça agresse les sens, en fait. Toutes les pubs, tous les machins, toutes les vidéos qui bougent partout, c'est devenu insupportable pour moi, en fait. À l'inverse, j'ai constaté des effets positifs assez spectaculaires liés à cette déconnexion avec Instagram. Et je pense que c'est valable pour d'autres réseaux commerciaux, si vous, c'est d'autres réseaux que vous utilisez de manière intensive. Première chose, c'est que j'ai l'esprit beaucoup plus serein. J'ai pris conscience du bruit que crée Instagram au fond de ma tête, même quand je ne suis pas connectée dessus. C'est-à-dire quand j'allais chercher mon téléphone presque automatiquement pour voir les notifications, à me demander si j'avais des commentaires. C'est comme un bruit mental en arrière-plan qui est permanent, un espèce de bruit blanc permanent qui s'est libéré quand j'ai arrêté d'aller sur Instagram. Deuxième chose, je suis globalement beaucoup moins accro à mon téléphone. J'aurais pu rester des heures dans un coin sans que j'y pense du tout et ça me fait un bien fou, même si ça gonfle mes proches parce que du coup, quand je reçois des messages, je réponds des heures après. Troisième chose, je passe les moments de temps libre à faire d'autres choses qui me font beaucoup plus de bien. Plutôt que d'être en train d'attendre, par exemple, dans la queue du supermarché en regardant mon téléphone. Donc ça me permet de me perdre dans mes pensées, d'écouter de la musique ou d'écouter un podcast. Ou si c'est un moment de pause où j'ai plus de temps, ça va me permettre de lire un livre. J'ai remarqué que je lis beaucoup plus depuis que je ne vais plus sur Instagram, par exemple. Enfin, dernier point, mais le plus important, je pense, c'est que j'achète tellement moins de choses. Et pourtant, je pratique la simplicité matérielle et la consommation intentionnelle depuis des années. Mais j'avais pas conscience à quel point les pubs Instagram et les posts sponsorisés de certaines influenceuses que je suivais impactaient mes envies d'achat, mes tentations d'achat. En fait, l'algorithme était tellement bien affiné que je voyais plein de pubs de boutiques indépendantes et de tout ce que j'aime. Des créatrices de bijoux, des magasins de papeterie, des céramistes. Et là aussi, ça a été une libération de charge mentale monstrueuse, en plus d'un assainissement de mes finances, évidemment. C'est-à-dire que non seulement j'achète beaucoup moins, mais surtout, je passe beaucoup moins de temps à avoir envie d'acheter quelque chose et à discuter avec moi-même intérieurement. Est-ce que je me l'offre? Est-ce que je me l'offre pas? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est des négociations internes quand on a repéré un truc qui nous plaît sur est-ce que je l'achète ou pas. Et en fait, le fait de ne plus avoir cette espèce de brouhaha mental de est-ce que j'achète pas, c'est libérateur à un point, mais c'est incroyable. Du coup, ce que j'ai fait en ce qui concerne les créateurs et créatrices indépendantes que j'apprécie, je me suis abonnée à leur newsletter, en fait. Donc des petites marques, des artistes, etc. Si j'ai envie d'être au courant des ventes, des nouvelles collections, surtout que c'est un peu comme ça que fonctionne la boutique de Café aux Étoiles, entre parenthèses, hein, c'est que souvent, quand c'est des tout petits créateurs et créatrices, les boutiques sont pas ouvertes tout le temps. Il y a des collections qui se lancent, il y a des ventes qui se lancent à une date précise. Ils ont peu de stock. Et une fois que c'est vendu, c'est fini. Et puis vu que de toute façon l'algorithme des fois me permettait pas de voir les annonces sur Instagram quand la boutique ouvrait, bah là du coup je suis abonnée au newsletter. Donc s'il y a une collection qui sort sur leur boutique, je suis au courant. Si à ce moment-là j'ai envie d'acheter quelque chose ou j'ai envie de voir ce qu'ils ont, bah je vais proactivement cliquer sur la newsletter pour aller voir plutôt que d'être bombardée par des choses venant d'Instagram même quand je ne suis pas en train de chercher quelque chose à acheter, vous voyez. C'est que je reprends le contrôle sur l'information qui arrive de ce que sont en train de faire les artistes indépendants que je suis et ce que font les marques indépendantes que je suis. Et c'est moi qui décide quand je vais voir la boutique pour acheter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement différent comme dynamique. Et même avec les newsletters, je suis beaucoup moins tentée d'acheter qu'avant. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai créé une des premières choses que j'ai créées quand j'ai monté Café aux Étoiles en 2022, ça a été de créer le bulletin aux étoiles, qui est la newsletter mensuelle de la maison d'édition, dans ce but précis. C'est-à-dire que si vous souhaitez rester au courant des dates de sortie, des collections de papeterie, des mises en vente, de l'arrivée de la collection de livres, ou des différentes choses qu'on explore en termes de créativité et de slow avec la maison d'édition, eh ben, c'est un canal qui est disponible avec une lettre par mois, pour rester informée sans intermédiaire ni algorithme. C'est ça qui m'aide en tant que consommatrice de petites marques. Et donc, c'est ce que j'ai mis en place pour ma maison d'édition. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sur caféauxétoiles.fr/lettres, si vous avez envie d'être informé de cette manière-là. Et puis, si vous utilisez toujours les réseaux commerciaux, j'ai une community manager qui anime l'Instagram de Café aux Étoiles. Donc, la maison d'édition a un Instagram. Vous pouvez vous y abonner si vous le souhaitez. Et sachez qu'il existe maintenant, maintenant, je ne sais pas plus combien de temps ça existe, mais il y a une option dans Instagram qui sont les favoris. Et moi maintenant, sur mon Instagram, quand j'y vais, où je m'y pointe toutes les 36 du mois, quand j'y vais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes amis, en fait, mes proches et les gens dont j'ai pas envie de rater les publications en favoris. Et maintenant, je ne regarde que les posts de mes favoris. Mais même avec ça, plus le temps passe, moins ça me manque et moins j'y vais. Voilà pour le côté réseaux commerciaux et Instagram. Je me rends compte que même si on peut faire de la modération avec, et peut-être que vous, ça vous conviendra d'être présent sur les réseaux commerciaux, mais de manière modérée, je me rends compte que c'est une telle libération de charge mentale de ne plus y aller du tout, que j'ai choisi de plus y aller du tout. Et donc, ce que j'appelle réseaux commerciaux, c'est vraiment Facebook, Twitter, Instagram, c'est-à-dire les services où c'est des publications courtes, superficielles, pas des contenus profonds comme les podcasts ou les vidéos, vous voyez, plus des trucs superficiels, avec des algorithmes qui décident à notre place et tout un système de notifications, de commentaires, de machins qui créent des pics de dopamine. C'est ça que j'appelle les réseaux commerciaux et j'ai choisi de ne plus y aller, ou pratiquement plus y aller du tout. Et côté création de contenu de manière plus globale, du coup, ce que j'ai fait en tant qu'artiste, puisque je vais plus sur ces réseaux-là pour partager les coulisses, vous voyez, en tant que créatrice de contenu, j'ai choisi de le faire plutôt via, par exemple, des vlogs sur la chaîne de YouTube, ma chaîne YouTube qui s'appelle Floriteller, où il y a tous les mois ou tous les 2 mois des vlogs où vous voyez un petit peu ma vie d'artiste, mes habitudes, comment se passe ma créativité, comment se passe ma vie simple et sereine, etc. Je trouve que c'est plus quali, que c'est plus profond et que ça apporte plus de valeur que de poster des stories ici et là qui disparaissent au bout de 24 heures, vous voyez. Et le côté lien avec vous, en fait, lien avec les gens, avec la communauté, etc., j'ai préféré créer en fait un serveur Discord dont le lien d'invitation est sur caféauxétoiles.fr dans le footer, en fait, tout en bas de pied de page du site caféauxétoiles.fr. Il y a tous les liens importants, dont le lien d'invitation sur le serveur Discord qui permet d'avoir des vraies discussions avec les gens, d'avoir un vrai lien communautaire avec les gens, ce que je ne trouve plus depuis très longtemps sur les réseaux commerciaux. Donc pour être tenu au courant, comme je vous ai dit, il y a une newsletter mensuelle. Et pour l'Instagram de Café aux Étoiles qui existe, j'ai donc embauché Camille, qui est notre community manager, et qui permet d'offrir un aperçu de la maison d'édition à travers des jolies photos, des jolies vidéos. Je traite plus comme un catalogue, en fait, comme un portfolio de ce qu'on fait chez Café aux Étoiles, que comme une source de visibilité, si vous voulez. Ou comme une source pour trouver des nouveaux abonnés. C'est vraiment pas le but de l'Instagram de Café aux Étoiles. Mais ça, on en reparlera parce que j'ai prévu un podcast bonus début 2023 où on va discuter ensemble avec Camille. Comme ça, je vais vous la présenter et on pourra avoir tout un tas de discussions autour de la philosophie simple et sereine de Café aux Étoiles, de comment on monte une entreprise de manière slow, de comment je délègue aussi une partie du travail, etc. Enfin, c'est des conversations super intéressantes qu'on pourra avoir avec Camille dans un prochain podcast. Donc voilà, en ce qui concerne les réseaux commerciaux pour la simplicité numérique en 2023, je vous ai donné l'exemple d'Instagram parce que c'était le dernier réseau que j'utilisais encore régulièrement début 2022, mais je pense que la question se pose pour les autres réseaux que vous utilisez peut-être. Par exemple, avec le rachat de Twitter par Elon Musk, et le fait qu'il faut plus ou moins payer maintenant pour avoir un compte vérifié. Enfin bon, il est en train de tout changer là sur Twitter. Peut-être que ça pose la question de votre présence sur Twitter si vous en avez une. Donc voilà, je vous invite simplement à faire un audit un petit peu de votre utilisation et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous apporte de la valeur. Évidemment, je ne vous dis pas que vous devez quitter Instagram ou les autres réseaux commerciaux. Je partage simplement mon expérience et mes choix personnels avec le raisonnement qui va avec pour que vous compreniez en fait mon cheminement de pensée, pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait, pour vous inciter à aborder la question dans votre vie aussi avec l'esprit critique. Mais c'est à vous de savoir quel réseau vous apporte de la valeur et si ce qu'il vous coûte en termes d'énergie, de ressources, de charge mentale mérite de continuer à les utiliser avec intention pour la valeur qu'ils vous apportent. Et ça, il n'y a que vous qui connaissez la réponse à la question pour votre propre vie. Un deuxième point que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la gestion des informations et des contenus en ligne. Parce que la simplicité numérique, c'est pas seulement les réseaux commerciaux, c'est aussi tout ce qu'on consomme en fait. toutes les informations, les contenus qui sont disponibles sur Internet, que ce soit à l'écrit, à travers les articles en ligne ou les newsletters, à travers les podcasts, les vidéos, par exemple sur YouTube, Netflix, Amazon Prime et autres services de streaming similaires, etc., etc. Ou même Twitch, si vous faites partie des gens qui regardaient des lives sur Twitch. Moi, je m'y suis jamais mise personnellement. Je suis au courant professionnellement pour mon boulot de jeu vidéo, mais je m'y suis jamais mise personnellement. Mais vous pouvez aussi consommer du contenu sur Twitch. En ce qui me concerne, le problème principal auquel je suis confrontée, aussi bien en tant que créatrice qu'en tant qu'utilisatrice, c'est un problème de quantité. Il y a trop de nouvelles vidéos qui apparaissent sur YouTube, trop de nouveaux épisodes de podcasts. Ne parlons même pas de ma boîte email réservée aux newsletters qui approche les 1000 emails non lus, j'en peux plus. Donc voilà, moi mon problème principal en tant que consommatrice de contenu, c'est la quantité. Un mot sur l'actualité en ligne, parce que je sais qu'au fil des années, vous avez été plusieurs à me demander ce que je consomme comme actu, comment je me tiens au courant des faits de société, de la politique, etc. Alors sachez-le, je ne regarde ni ne lis les actualités en ligne par choix. C'est un truc que j'ai enlevé de ma vie il y a plusieurs années, parce que je trouve que c'est présenté de manière négative, de manière anxiogène. Je trouve que le côté analyse est de plus en plus superficiel, voire inexistant. Que ça sert à déclencher des émotions fortes et pour essayer de nous contrôler. Et c'est quelque chose que je désapprouve vivement. Donc je ne consomme pas d'actualité. Je pars du principe que si la nouvelle impacte ma vie quotidienne, comme par exemple des règles autour du Covid, une grève, une guerre en Ukraine, ce genre de choses, je pars du principe que si c'est hyper important, je serai au courant. Et ça s'est vérifié sans faute ces dernières années. Et si le but de consommer les actualités, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, et d'avoir un certain niveau de connaissance de géopolitique, d'économie, etc., pour être comme informé du monde qui nous entoure de manière globale, si c'est ça l'objectif, je vais plutôt me tourner vers des contenus construits et de qualité autour d'un sujet qui m'intéresse. Donc ça peut être par exemple un livre de non-fiction, ou un documentaire, ou un podcast, des épisodes de podcast qui vont en profondeur sur des sujets en particulier, etc., etc. Je vais plutôt consommer ça plutôt que des sites d'actu qui sortent des news à la chaîne 24h sur 24. Entre parenthèses d'ailleurs, Arte produit des documentaires incroyables. Si ça vous intéresse, ils les mettent pendant un court temps, je crois un mois ou deux sur YouTube. Et sinon, il y a une application Arte qui est disponible sur les apps, sur tablette, sur mobile, sur la télé, etc. C'est une mine de contenu de qualité culturel, social, économique, politique, etc. Je préfère largement passer une heure à regarder un documentaire Arte plutôt que de m'abreuver d'actu courte et superficielle tous les matins, hyper anxiogène, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir à la consommation de contenu sur Internet, et c'est un peu la conclusion, ou en tout cas l'exemple pour les actus, c'est que j'ai décidé, là aussi, en 2023, de continuer à opter pour l'approche de la qualité plutôt que la quantité. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. La meilleure manière de ne pas me laisser submerger par le contenu disponible en ligne, ça a été de faire du tri dans mes abonnements. Donc par exemple, j'ai fait du tri dans mes abonnements aux chaînes YouTube, aux newsletters, en podcast aussi, en enlevant toutes celles dont la qualité ne me convenait pas ou dont la quantité était trop élevée. Par exemple, je me suis désabonnée de toutes les newsletters quotidiennes que je recevais encore. Certaines personnes qui, pour des raisons marketing, optent pour des newsletters genre tous les matins. Moi ça, j'en peux plus. Donc maintenant, je me suis systématiquement désabonnée de tout ça. Pour les podcasts, je suis restée seulement abonnée aux émissions qui me plaisent, mais je ne me force pas à écouter tous les épisodes. Donc quand je regarde la liste des épisodes que j'ai pas encore écoutés depuis la dernière fois que je me suis connectée à mon app de podcast, bah je trie en fait. J'archive ceux qui ont probablement vont pas m'intéresser vu le titre, et je télécharge pour mettre de côté ceux qui m'intéressent. Et après j'ai une liste en fait de podcasts téléchargés auxquels je peux accéder quand je suis dans le métro, dans le train, etc. Je suis aussi devenue experte à arrêter en cours de route si ça ne me convient pas. Alors ça, c'est nouveau, enfin nouveau de 2022. Parce que pendant très longtemps, je me suis obligée à aller au bout, au bout d'une émission, au bout d'une saison de série télé, au bout d'un livre, au bout d'un film, en me disant « ah bah je vais pas le juger, si ça se trouve ça devient mieux après », et ben maintenant, non. Si ça me plaît pas, que je prends pas plaisir à regarder par exemple une série, et ben je me force plus à aller jusqu'à la fin de la saison. Pareil sur pour les bouquins, surtout maintenant que je lis beaucoup sur liseuse, du coup il n'y a plus de bouquins papier si vous voulez, je n'ai aucun scrupule à arrêter de lire un livre s'il ne répond pas à mes attentes et si ça ne me fait pas plaisir de le lire en fait, hein, tout simplement. Parce que du coup je me dis, je préfère arrêter les frais et passer mon temps à regarder une autre série ou à lire un autre livre qui me plaise en fait, plutôt que de m'obliger à continuer à consommer un contenu qui ne me convient pas. Tout ça finalement, si on y réfléchit un petit peu, c'est l'application des principes minimalistes au contenu. De la même manière qu'on sélectionne avec soin les objets qu'on garde autour de soi, je sélectionne avec soin les contenus auxquels je consacre mon temps et qui nourrissent mon imaginaire intérieur. Ça me rappelle ce que disait Umberto Eco à l'époque. Il disait qu'aujourd'hui, être cultivé, ce n'est pas accumuler des connaissances, puisque toutes les informations sont disponibles sur Internet. D'après Umberto Eco, être cultivé de nos jours, c'est savoir discriminer l'information. Il en parle dans un livre que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Chronique d'une société liquide, par Umberto Eco, qui est en fait un assemblage d'articles et de chroniques qu'il a écrites sur une vingtaine d'années, je crois, au début des années 2000, dans un journal italien. Donc évidemment, c'est traduit en français. Et c'est rassemblé par thème. Et ce bouquin, bah justement, typiquement, ce bouquin, il est super intéressant parce que c'est du contenu approfondi sur une vision de la société. Umberto Eco était très intelligent. Enfin, beaucoup de bouquins qui sont très intéressants. J'ai lu des bouquins à propos de la traduction, de la linguistique et de la culture de lui. C'est ultra, ultra intéressant. Ce bouquin est hyper intéressant. Chronique d'une société liquide. Et donc, c'est dans un de ces articles-là où il parle justement des contenus en ligne, des connaissances d'Internet, de tous les contenus poubelles, enfin, tout ce sujet-là. Où il expliquait que pour lui, avoir un esprit critique et être cultivé aujourd'hui, c'est savoir discriminer l'information. Ça veut dire savoir utiliser notre esprit critique pour analyser la solidité du contenu en fonction des sources, en fonction de la qualité de production, savoir reconnaître en fait ce qui est fiable ou pas, et savoir sélectionner les contenus de qualité qui nous apportent de la valeur. Et c'est ça la philosophie que j'ai choisi d'adopter pour consommer du contenu en tant qu'utilisatrice. Sélectionner mes sources avec soin, choisir les sujets qui m'intéressent vraiment, ne pas hésiter à virer ce qui ne me convient plus, et du coup consacrer du temps avec intention à la consommation des contenus que j'ai choisi de garder. Donc au lieu d'en consommer le plus possible, le plus vite possible, et pire encore, de consommer des contenus qui me sont imposés par un algorithme plutôt que de les avoir choisis, j'en fais un moment à savourer avec intention et savourer des contenus que j'ai choisis avec intention et avec esprit critique. Par exemple, je regarde beaucoup moins de vidéos YouTube qu'avant, mais je les sélectionne avec soin via la page abonnement. Et quand je décide de regarder une vidéo, je me prépare un petit thé, peut-être un enka si j'ai faim, et je savoure le moment. Je consacre mon attention à la vidéo que j'ai choisi de regarder à ce moment-là. Je choisis la qualité, à la fois du contenu mais aussi du moment, plutôt que la quantité. Ce qui m'amène à partager la philosophie de création de contenu que j'ai commencé à appliquer cet automne et qui rentrera en vigueur en 2023 en tant qu'artiste indépendante, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la bulle nomade du mois dernier. J'ai décidé, pour les contenus que je crée moi-même en tant qu'artiste, en tant qu'éditrice, en tant que créatrice d'une maison d'édition, j'ai décidé d'appliquer cette philosophie de qualité plutôt que de quantité. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, je produisais beaucoup trop de contenu chaque mois, par habitude, hein, plus qu'autre chose, alors que les canaux se sont multipliés au fil des années. Par exemple, j'avais à l'époque seulement un blog, et après j'ai lancé un podcast, et après j'ai lancé une chaîne YouTube, et après j'ai lancé un deuxième podcast qui s'appelait Simplicité, qui est toujours disponible si vous avez envie de l'écouter, c'est à propos de minimalisme et de slow. Et puis après, il a commencé à y avoir les différents canaux de réseaux commerciaux, le Pinterest, le Instagram, le Twitter, la page Facebook, le machin, le truc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je produisais beaucoup trop de contenu chaque mois, aussi par pression de l'algorithme, hein, notamment sur YouTube, qui qui nous incite beaucoup à produire des vidéos de manière très régulière sur la chaîne. Et les conséquences, c'est que la création de contenu a commencé à prendre le pas sur d'autres projets, comme la création artistique, mais aussi les projets de la maison d'édition. Et l'autre conséquence, c'est que dans la course à respecter mon calendrier éditorial, un, je produisais pas toujours la meilleure qualité que je voulais sous la pression de la quantité, et deux, je prenais plus plaisir à les produire, les contenus, parce que j'étais sous pression de me dépêcher de les délivrer, voyez ce que je veux dire. Du coup, maintenant, j'ai décidé de réduire la quantité de contenu que je produis, de manière à avoir le loisir de créer de la qualité à la place. Donc déjà, vous, ça vous donne davantage d'espace pour savourer ces contenus, et moi, ça me donne la place de davantage prendre plaisir à les créer sans pression, et ça me donne la place d'améliorer la qualité de ce que je crée. Donc pour donner une idée, les newsletters, donc les miennes en tant qu'artiste de Florivine, sont passées de hebdomadaires à mensuelles, parce qu'en fait, une fois par mois, ça suffit pour vous tenir au courant des contenus publiés, de mes projets artistiques en cours et des réflexions créatives et sereines du moment. Le podcast est passé depuis cet automne de 2 émissions à 1 émission par mois. Ça me laisse le temps de l'enregistrer tranquillement et de vous laisser le temps de l'écouter. Ce sera notre petite conversation asymétrique mensuelle autour de sujets créatifs et slow. Et j'ai déjà retrouvé tout mon enthousiasme d'enregistrer les podcasts, c'est vraiment magique. Les mécènes sur Patreon vont continuer à recevoir le petit article de point du mois pour garder un lien régulier avec moi et un contenu bonus de qualité par mois. Donc en fonction des mois, c'est soit un contenu audio, soit un contenu vidéo qui est accessible à tous les mécènes Patreon, tous les paliers. Et évidemment, je continue aussi à agrémenter la bibliothèque de ressources numériques pour le palier cappuccino. Donc soit des contenus type simple et serein, soit des contenus artistiques. Mais là aussi, je souhaite désormais le faire avec intention, en prenant le temps de créer des ressources qualitatives plutôt que de me laisser enfermer par une obligation de régularité. Donc toutes les archives des ressources sont disponibles aux mécènes qui nous rejoindraient maintenant de toute manière. Donc je m'inquiète pas sur la quantité de contenu disponible pour les mécènes dans tous les cas, mais je prends le temps d'en ajouter petit à petit en fonction de mon inspiration et de les créer avec plaisir. Et enfin, les vidéos YouTube. Alors pour l'instant, elles sont toujours à une par semaine, mais mon idée, c'est d'avoir une vidéo de qualité par mois, donc soit un vlog par exemple, ou un tuto de quelque chose, ou une présentation un petit peu élaborée que j'ai pris le temps de faire, qui est vraiment une vidéo de qualité. La vidéo de points mensuels qui existe déjà à la fin du mois, qui est tranquille, qui est moi qui vous parle de mes créations, de mes découvertes, de mes inspirations, c'est une vidéo qui me fait très plaisir. Et du coup, ça fait 2 vidéos par mois qui sont assurées. Et les autres semaines, soit j'ai le temps de créer quelque chose, parce que par exemple, j'ai peint une aquarelle et je me suis filmée en train de la peindre, et du coup, ça me fait un contenu sympa à partager avec vous. Ou alors j'ai le temps de vous faire une petite discussion autour d'un thé ou quelque chose comme ça. Mais si j'ai pas le temps de produire une vidéo, ben j'en produis pas. Donc peut-être qu'il y a des mois où il y aura seulement 2 vidéos au lieu de 4 ou 5 vidéos aujourd'hui. Et c'est ok. Et d'ailleurs c'est pareil pour le podcast, hein. Il y aura sûrement de temps en temps des émissions bonus type interview. Notamment l'interview avec Camille, ma community manager, qui va s'en venir début 2023. Mais c'est du bonus. Si j'ai le temps, si j'ai l'inspiration et si j'ai un contenu intéressant à vous partager, c'est pas une obligation. Et en fait, ce changement d'état d'esprit, de se dire il y a un contenu qualitatif régulier qui est assuré, qui a un rendez-vous avec vous et le reste c'est que du bonus, ça change complètement l'approche de la création de contenu. Enfin, ce dernier podcast de l'année va être un petit peu long. 3e point que je voulais aborder avec vous, c'est la simplification des outils numériques en eux-mêmes, c'est-à-dire les apps, les logiciels, toutes ces choses-là qu'on utilise sur nos différents, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone, etc. Avec mon épuisement estival, je me suis rendu compte que certains de mes outils quotidiens étaient beaucoup trop complexes quand j'ai soudain manqué d'énergie pour les tenir à jour et que du coup j'ai arrêté de les utiliser. Ça c'est un signe, hein. Si vous mettez en place que ce soit numérique ou pas d'ailleurs, si vous mettez en place un système, un outil, et que vous avez du mal à continuer à l'utiliser au quotidien, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Soit c'est trop complexe, soit c'est pas adapté à vos besoins, c'est pas vous qui avez un problème et qui êtes pas capable de tenir votre truc, c'est qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans la manière de faire. Et qu'il faut du coup ajuster les choses. Puisque nos outils sont censés être à notre service et pas l'inverse, vous voyez. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais des choses trop complexes. Je pense notamment à mes bases de données complexes interconnectées sur Notion. J'adore cet outil, hein. Notion, on en reparlera si vous voulez, on pourra en faire une bulle nomade dédiée ou peut-être une vidéo pour que je puisse vous montrer en direct. On verra ce que je peux produire comme contenu là-dessus en 2023. Mais j'adore cet outil, pour moi c'est un peu un bullet journal en version numérique. Tellement l'outil est flexible et adaptable et pratique. Donc Notion, c'est une application mobile, tablette et un site internet qui permet de s'organiser en fait, qui est gratuite pour les particuliers, qui est payante pour les entreprises, mais qui est gratuite pour les particuliers. Donc si ça vous intéresse, allez voir Notion, il y a plein de tutos sur YouTube déjà, vous n'avez pas besoin de moi pour commencer à comprendre ce que c'est Notion. Donc c'est un outil que j'adore et que je vais continuer à utiliser avec enthousiasme. Je l'utilise depuis septembre 2020, je crois, et je vais pas arrêter d'utiliser Notion. Mais par contre, depuis cette rentrée, j'ai largement simplifié cet outil et j'ai largement simplifié mes outils d'organisation en général. Donc sur Notion, par exemple, au lieu d'avoir des tas de cartes projet, donc de créer une page par projet, avec des listes de tâches à n'en plus finir autour de chaque projet, et des listes de tâches qui sont toutes rassemblées ensemble sur une autre page, etc., etc., j'ai simplement une page principale en fait que j'ai appelée l'atelier, avec des tâches pour la saison qui sont divisées en 3 mois, donc 3 colonnes, avec une liste de tâches par colonne. Et en dessous, il y a la même chose avec les mois, le mois en cours divisé en semaines. Donc vous avez un premier tableau avec marqué par exemple là, l'hiver, décembre, janvier, février, et une quatrième colonne pour printemps, donc ce qui sera pour après. Et en dessous, il y a un deuxième tableau avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, de décembre au moment où j'enregistre ce podcast puisqu'on est en décembre. Et pareil avec 3-4 tâches clés qui sont simplement marquées et que je peux déplacer si j'ai pas eu le temps de les faire, que je peux cocher une fois qu'elles sont faites. C'est hyper simple, c'est hyper fluide. Il n'y a pas de base de données, c'est juste une liste à cocher. Et après, j'affine les choses de manière analogique sur mon bullet journal pour le quotidien. Sur mon téléphone, j'ai viré plein d'apps et j'ai supprimé pratiquement toutes les notifications. J'ai arrêté d'utiliser mon Apple Watch que j'ai depuis des années, sauf quand je vais courir. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin que ma montre me dise que j'ai reçu un message ou qu'il faut que je me lève le cul de ma chaise de bureau une fois par heure. En fait, j'en ai pas besoin de cette putain d'Apple Watch. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et même mon bullet journal, même si c'est pas un outil numérique, même mon bullet journal est à la fois plus simple et plus orienté souvenirs et journal de bord et créativité et savourer, etc., que organisation par rapport à avant. Et ça, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mon bullet journal, il y a des vidéos publiques sur YouTube. Il y a toute une playlist bullet journal sur la chaîne Fleury Taylor, parce que c'est beaucoup plus facile de détailler le bullet journal en vidéo qu'en audio. Et pour les mécènes, j'ai publié le mois dernier la mise en page mensuelle de décembre, du coup, non, de novembre, pour vous donner une idée des pages que je crée en ce moment dans mon carnet. Donc, il y a du contenu bonus sur Patreon, il y a du contenu gratuit pour tout le monde sur YouTube, si vous avez envie d'en savoir plus sur Bullet Journal. Enfin, un dernier mot avant de vous quitter sur ce thème de la simplicité numérique, c'est que j'ai décidé de prendre le temps de savourer. J'en ai déjà parlé par rapport à la consommation de contenu. Mais que ce soit dans la création de contenu que je fais en tant que Florivine pour vous en tant qu'artiste, que ce soit dans la lecture de livres, le visionnage de vidéos, l'écoute de podcasts, tous ces moments, je choisis de les inviter dans mon agenda avec intention, en prenant le temps et en rendant le moment spécial, plutôt que de me goinfrer de contenu ou de courir après le calendrier éditorial en trop exigeant que je me suis infligée. Même dans mon organisation, j'ai décidé que mon petit moment où je vais sur ma page Notion toute simple, mon petit moment où je crée ma page de bullet journal du jour, je veux que ce soit un moment savoureux, agréable, et pas cette espèce de truc anxiogène où j'ai une liste de tâches interminables, où je me demande, mon Dieu, quand est-ce que j'aurai le temps de tout faire. Non, j'ai vraiment envie de réinviter la sérénité, l'enthousiasme, le plaisir de faire dans tous ces aspects-là autour des outils numériques. L'idée, c'est que je veux que les outils et contenus numériques deviennent un plaisir et un outil agréable et adapté pour moi, plutôt qu'une source d'anxiété. Ce qui me permet de me faire à moi-même et de vous faire par la même occasion le rappel que ce sont des outils, ce sont des ressources. Ce sont des outils, ce sont des ressources qui servent mes priorités et mes besoins. C'est moi, en tant qu'adulte, indépendante et responsable, qui choisis à quoi je consacre mon attention et dans quel contexte. ces outils et ressources deviennent des soutiens, des sources d'inspiration, des sources de petites joies, de saveurs. En d'autres termes, je reprends la souveraineté sur ma vie numérique. Et c'est ça le plus important pour moi en 2023. Et vous, quel est votre rapport aux réseaux commerciaux et aux contenus en ligne? Avez-vous l'impression d'en avoir le contrôle ou vous sentez-vous submergé? Quelles sont vos intentions numériques pour l'année à venir? Vous pouvez partager vos idées en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn182 où vous pouvez aussi retrouver le script de cet épisode en PDF gratuitement. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord Café aux Étoiles dont le lien d'invitation est sur le site de la maison d'édition ou bien vous pouvez me contacter via floriteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique le premier dimanche de chaque mois que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !